22 septembre 2018, jour de colère en Aveyron, jour de vent de colère même, puisqu'il est question d'éoliennes, mais pas seulement, on le verra. La convergence des luttes passe ce jour-là par une manifestation, une marche pour le soulèvement des territoires. Éolien, aménagement, grand transformateur électrique, école publique et hôpital en milieu rural, voilà les ingrédients de ce joyeux barouf qui doit converger vers la Massade, assemblée en Occitan, nom donné à cette petite cabane devenue grande d'expérience et de rencontres, plantée dans le village de Saint-Victor et Melvieux, au-dessus de Saint-Afrique, où se déroule cette marche. En ces premiers jours d'automne, il fait étonnamment chaud à Saint-Afrique, sans doute un effet du dérèglement climatique, lui-même effet d'une emprise toujours plus folle du monde et des territoires, par la main de l'homme, en tout cas de quelques hommes et femmes, mais toutes les femmes et hommes ne sont pas forcément d'accord avec cette vision, cette prédation des choses. Balade dans le cortège plurilute de ce jour de vent de colère en Aveyron. Samedi 22 septembre, à Saint-Afrique, en Aveyron, derrière le centre hospitalier, un rassemblement, une marche pour le soulèvement du territoire. Il y a déjà une bonne centaine de personnes à vue d'œil, un peu éparpillées pour l'instant. Des tracteurs, des remorques, même une calèche avec des chevaux. On va suivre cette marche. Non au transfo. Il y a des banderoles qui commencent à être déployées.
Ben déjà, merci à tous d'être venus. Merci d'être venus en nombre à l'appel de la Massade. Donc c'est la Massade qui a lancé cet appel, mais il ne concerne pas du tout que la lutte contre le méga transformateur et les milliers d'éoliennes industrielles qui vont avec. Cette marche, on l'a voulu avant tout pour trouver un sens commun dans ce qu'on a envie de vivre dans nos campagnes. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que nous, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on lutte là-haut contre ce projet méga transformateur. Plusieurs décennies même, je pense, que des personnes luttent contre l'installation de projets éoliens industriels sur l'ensemble des territoires ruraux, en France et pas que, évidemment. On pense au Mexique aussi, ils seront là pendant la fête du vent. Et dans ces réflexions, on a rencontré d'autres personnes qui luttaient. On a aussi eu l'occasion de faire venir des personnes lors de conférences, d'avoir des débats, des échanges. On a rencontré des gens en lutte pour maintenir leurs écoles. On a rencontré des gens en lutte pour maintenir leurs hôpitaux de proximité, des gens qui défendaient des petits commerces de proximité dans les villages, des gens qui défendaient les services, la poste, le train. Et au fil de ces réflexions, on s'est dit qu'il y avait certainement quelque chose qui reliait toutes ces problématiques-là, toutes ces luttes-là. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que toutes ces luttes-là, elles s'articulent autour de la désertification de nos territoires ruraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'État a choisi d'abandonner clairement les territoires ruraux pour les laisser libre champ à la colonisation de tous les aménageurs. Donc quand on parle d'aménageurs, on parle d'éoliennes industrielles, de centrales photovoltaïques, mais on parle aussi de gaz de schiste, on parle aussi de décharges, on parle aussi de centres d'enfouissement de déchets nucléaires, on parle aussi de centres industriels de loisirs, donc type les Center Park. Voilà, c'est d'une manière très globale. L'État a choisi de vider les campagnes pour pouvoir laisser les aménageurs y faire ce qu'ils voulaient sans que les riverains puissent s'y opposer, puisqu'ils n'y seront plus là. L'État a fait le choix d'installer toute sa population dans des métropoles. Des métropoles qui grossissent chaque jour un peu plus et qui ont besoin de ces énormes infrastructures industrielles pour pouvoir fonctionner. Évidemment, on ne va pas les mettre en ville. Donc il a bien fallu trouver des endroits où mettre ces infrastructures-là. Donc du coup, cette marche, c'est pour dénoncer ça, pour dénoncer la désertification, pour dénoncer l'industrialisation des territoires ruraux, que nous vous invitons à marcher tous ensemble aujourd'hui avec nous. Et c'est aussi pour retrouver du sens et pour faire par nous-mêmes, dans un esprit d'autogestion aussi, pour retrouver comment nous avons envie de vivre ensemble et quels moyens on peut se donner aujourd'hui pour arriver à mettre en place ces vies dont nous rêvons. Donc je vous invite aussi, pour discuter de ça plus longuement, parce que pendant la marche ça sera compliqué, à nous rejoindre cet après-midi à 15h30 sur le hameau libre de la Massade pour l'Assemblée des luttes. Donc l'Assemblée des luttes de l'Aveyron et d'ailleurs. Histoire justement de discuter de ce que je viens de vous dire. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, enfin nous avons rencontré beaucoup de luttes, il y aura des prises de parole de ces différentes luttes, des personnes de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivent encore aujourd'hui, parce que c'est pas fini. Donc tout au long de la manif, il y aura différentes prises de parole de tous les gens qui ont rejoint notre appel. Donc ça peut être des personnes tout simplement, c'est aussi, ça peut être aussi des syndicats, donc on a la Confédération Paysanne Aveyron qui est avec nous aujourd'hui par exemple, on a le syndicat Solidaire aussi qui est avec nous aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup de luttes à mener, mais aujourd'hui il nous semble important d'insister sur la lutte contre le méga transformateur. Parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de nous faire exproprier, donc nous les propriétaires en indivision, nous les exploitants agricoles, nous les propriétaires historiques, ils sont en train de nous spolier de nos terres pour installer ce méga transformateur. Donc viendra vite le temps, évidemment, des bulldozers et des forces de l'ordre pour expulser ce que nous avons construit depuis 4 ans, qui constitue aujourd'hui le hameau libre de la Massade. D'ailleurs, il y a un premier rendez-vous auquel je vous appelle tous à revenir en masse. C'est mercredi prochain, mercredi 26, nous avons le juge de l'expropriation qui vient sur place à Saint-Victor pour définir les indemnités compensatoires pour la spoliation de nos terres. Nous n'en voulons pas de ces indemnités, nous l'avons déjà dit, tous les propriétaires, tous les exploitants agricoles sont d'accord, nous ne voulons pas d'argent, ces terres ne sont pas à vendre. Donc ce sera l'occasion de lui rappeler, donc je vous invite à venir nous rejoindre mercredi à 9h devant la mairie de Saint-Victor. Du coup, je vous invite à évidemment continuer cette marche avec nous pour défendre nos campagnes, ce qui fait la richesse, leur qualité, et pour préserver ce territoire pour toutes les générations à venir. Et à ceux qui nous demandent si la Massade est une zone à défendre, moi, j'ai envie de leur répondre que tout l'Aveyron est une zone à défendre. Toutes nos compagnes sont des zones à défendre. Paresse nos arrestes. Merci d'être là. Alors, je vais faire un petit point logistique. Donc là, on va faire un trajet dans le centre-ville. Voilà, on va essayer de se rendre jusque... Donc là, on va passer, du coup, on part de l'hôpital, évidemment, c'est symbolique. On va passer devant l'école Blanchard-Cossat, qui a aussi mené une lutte dure l'année dernière pour arriver à maintenir ses postes. On continuera devant le cinéma, et voilà, on verra ce qu'on fera là-bas. On est escorté par des calèches, par des tracteurs. Vous pouvez monter dans la benne des tracteurs pour ceux qui n'ont pas trop envie de marcher ou simplement envie de chanter sur la benne, ça sera toujours sympathique. Et ensuite, on vous invite à pique-niquer tous ensemble. Donc le pique-nique a été préparé par nos soins, par les cantines. C'est l'occasion de remercier encore une fois les cantines, sans qui ce type d'événement serait très compliqué. Du coup, on se rejoint tous à Crassus pour pique-niquer. Vous pouvez monter à pied, le chemin de randonnée a été balisé. Il y a des gens qui connaissent, n'hésitez pas à les suivre. Ou si vous voulez, vous pouvez nous rejoindre en voiture, ou encore une fois, monter dans les tracteurs. Voilà, il y a à peu près 5 km pour arriver jusqu'à Crassus, pour vous donner une petite idée pour marcher. Et le chemin est bien sympathique. Et Crassus, pourquoi ? Crassus, parce que c'est le dernier lieu du carnage des promoteurs Eolia. Vous allez pouvoir vous rendre compte sur site de ce que c'est réellement l'installation d'éoliennes industrielles. Et évidemment, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que tout ça s'inscrit dans la fête du vent numéro 4, donc c'est la quatrième année que nous organisons ça, donc avec un baltrade déjà qui a eu lieu hier soir, et tout un programme, donc on a des flyers pour ceux qui ne les ont pas, si vous voulez avoir le programme plus complet de la fête du vent, qui continue du coup jusqu'à dimanche. Et pour finir, la nouveauté aussi cette année de la fête du vent, c'est qu'on appelle à une occupation permanente du hameau libre de la Massade. Donc tous les gens qui veulent y passer, une heure, un jour, un mois, un an, sont évidemment les bienvenus. Merci à tous encore.
Occupation permanente, c'est là une lutte qu'a préparée depuis quelques années le collectif de la Massade face au rouleau compresseur de RTE. Se réapproprier un territoire via une copropriété indivisible d'une belle centaine de personnes et via les usages que cette centaine rejointe par d'autres centaines y expérimente. Construire, célébrer, chanter, réfléchir, débattre et converger, notamment avec le collectif de défense de l'hôpital.
Pour les usagers du comité de défense des hôpitaux en fait, de Saint-Affrique et de Millau, quelques mots puisqu'on est devant cet hôpital. Bon, les hôpitaux du sud Aveyron et particulièrement celui de Saint-Affrique, puisqu'on est devant celui de Bois, le Saint-Affrique, sont pris en tenaille entre deux éléments qui tuent aujourd'hui ces outils de santé. On a d'un côté le budget qui est simplement rabattu au niveau national. Il faudrait 4% d'augmentation du budget de la Sécu tous les ans, je ne vais pas vous assonner trop de chiffres, mais pour simplement maintenir le niveau des outils de santé, vu l'augmentation de la population, le vieillissement de la population. Ils mettent 2,3 et là ils viennent généreusement de mettre 2,5. Autrement dit, il y a tous les ans, il manque 5 milliards au minimum et 6-7 milliards si on veut pas seulement maintenir mais améliorer le niveau de santé. Donc aujourd'hui, il y a ce... Alors les conséquences, c'est qu'il manque du personnel. Les conséquences, c'est qu'il y a des moyens techniques dans un hôpital. Ici, ça ne veut pas dire qu'ils sont retirés, mais ils ne sont pas installés. On n'a pas les équipements techniques. On lui dit c'est trop cher pour un hôpital comme le vôtre. Et puis les conséquences, c'est aussi le remboursement qui se fait de moins en moins pour les patients et les usagers. Et puis les conséquences, c'est aussi que le personnel, du fait qu'il manque, il est à bout. Et ça, dans beaucoup d'hôpitaux, c'est la situation. Ici, comme ailleurs, pour des raisons parfois différentes. Et le deuxième élément de la tenaille, c'est une sorte de caste libérale qui gère l'installation des médecins. En fait, les médecins, alors pas ceux qui sont ici, ceux qui ont choisi le service public l'ont choisi, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, plein de médecins choisissent uniquement en fonction de leur intérêt personnel, pas en fonction de l'intérêt et du bien des usagers. Les facs de médecine, c'est un service public qui les a formés. Sauf qu'après, leur carrière, elle est ultimement libérale. Donc ils choisissent le lieu, ils préfèrent bosser à Montpellier ou à Barcelone que dans le sud d'Aveyron. Ils vont préférer bosser dans les cliniques que dans les hôpitaux. Même le CHU de Montpellier n'arrive pas à retenir ses médecins, ils foutent le camp dans les cliniques pour se faire de la thune, un point c'est tout. Et donc l'intérêt des usagers, l'intérêt des patients n'existe pas. Et ces deux éléments-là, ça tue nos hôpitaux. Parce qu'on a des médecins qui partent et qui ne sont pas remplacés. Parce qu'il n'y a pas des gens qui vont venir, parce qu'ils vont choisir le fric ailleurs. Alors qu'ils ont été formés avec le service public. Donc une des conséquences, c'est qu'on a une médecine à deux vitesses qui se met en place. Et que pour revenir à la notion de territoire qui a été évoquée, on est clairement ici, comme d'ailleurs dans les quartiers populaires, dans les grandes villes, on est clairement ici sur une zone où on est en deuxième zone. Au niveau santé. C'est-à-dire qu'il y a la vitesse, la santé maintenant c'est à deux vitesses. Et bien nous on est clairement un territoire qui est voué à être la deuxième vitesse. Pour l'instant, on a à peu près le maintien du niveau. On voit que ça se dégrade avec les conditions de travail du personnel, les médecins qui ont dit pas se remplacer, etc. Mais on a cette difficulté et on est là-dessus. On est sur un territoire en souffrance, sans faire un jeu de mots, mais on est vraiment sur cette île. Alors, le plan gouvernemental qui vient de tomber, juste pour dire deux mots, il manque 5 à 7 milliards tous les ans, ils viennent de rajouter 400 millions. Bon, donc on est très loin du compte, et en plus les 400 millions vont servir en fait d'espace de négociation avec les médecins libéraux, puisqu'ils ont prévu de préparer la loi par une négociation avec ces médecins. Donc en clair, on n'a pas grand-chose à attendre du côté des hôpitaux. On a une grande annonce sur les hôpitaux de proximité. En fait, avant, je sais pas, il y avait 4 niveaux d'hôpitaux en France, et maintenant ils n'en font plus que 3. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont supprimer des services dont il y a 600 hôpitaux en France qui sont visés, et on peut considérer que Saint-Affrique et Millau sont dans le lot, 600 hôpitaux sur lesquels ils vont fermer les services chirurgie et maternité. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez venir vous faire soigner, mais aucune opération. Ce qui caractérise un hôpital, c'est la capacité à faire plus qu'un médecin. Et bien là, tels qu'ils sont partis, ils vont appeler hôpitaux de proximité. Le troisième niveau, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé dans les hôpitaux, ils veulent supprimer, et donc c'est l'enjeu de ce qui va se passer en 2019, hein, il faudra se mobiliser, ils veulent supprimer la maternité et le bloc chirurgical. C'est un vieux projet, ça fait 30 ans qu'ils sont sur ce truc-là, ils n'ont jamais dit on va fermer l'hôpital. Non, ils le gardent, mais c'est plus un hôpital. Donc, après, le deuxième élément qu'ils mettent en avant, c'est qu'ils vont aider les médecins de ville, parce qu'ils ont conscience qu'il y a un problème sur les urgences. Donc ils disent, on va vous aider les médecins de ville, on va vous mettre quelqu'un pour vous aider, pour que vous ayez plus de temps de travailler. Parce qu'il va falloir quand même prendre en charge ces urgences localement. Et c'est là-dessus qu'ils comptent avancer. Et puis après, bon, ils ont aussi toute une série d'éléments où ils renforcent le poids de la médecine libérale dans le système de santé et même dans les hôpitaux. En fait, la logique sur laquelle ils sont est toujours la même. Et c'est probablement ce qui fait un élément de convergence avec la bataille que vous menez sur la Masada. C'est cette logique de mégapole. Tout est centré sur les mégapoles et autour on a des déserts, effectivement, qui sont considérés comme des sous-zones, des secondes zones, où à la limite, puisqu'on a choisi de vivre dans un pays perdu, on en a les conséquences. C'est un peu la logique du technocrate moyen qui construit aussi aujourd'hui les plans de développement. Depuis 30 ans quand même ici, cette volonté de fermer les urgences et la maternité était présente. Depuis 30 ans, on y a résisté. Donc on a tendance à penser que si on l'avait pendant 30 ans, on peut toujours continuer à résister, continuer à se mobiliser. Ça veut dire qu'on est capable de rassembler très largement, et pas que les convaincus que nous pouvons être aujourd'hui par exemple, mais qu'il faut effectivement que toute la population se rende compte que ce qu'on est en train de tuer, c'est la possibilité de vivre ici. Et ça, à mon avis, ça fait une large convergence, à condition de le démontrer, de réussir à bâtir des mobilisations. Alors, en face de nous, on a le pouvoir du fric. En face de nous, et ça a été évoqué par la Masada, il y a sûrement des échéances prochaines qui vont s'y passer, il y a la répression, il y a le pouvoir policier. Mais en face de nous, il y a aussi ce qui se passe dans la tête et ce que le matraquage publicitaire fait passer. Aujourd'hui, à chaque fois qu'ils nous détruisent, c'est pour notre bien. Ils vont fermer les services ici en disant « c'est pour la sécurité ». Et puis, ils vont fermer ou ils vont imposer, par exemple, les éoliennes industrielles et le méga au nom du progrès. C'est toujours au nom de grandes idées comme ça sur lesquelles ils ont matraqué et qui marchent malheureusement dans la tête de beaucoup de nos concitoyens, de nos voisins. Cette idée du progrès, cette idée de bah « oui, il faut la sécurité, etc. » et tout. Efface toute réflexion logique sur de quoi on a besoin pour vivre ici. Est-ce qu'on a le droit de vivre partout à égalité sur un territoire qui s'appelle aujourd'hui la France encore? Est-ce que les citoyens ont les mêmes droits à la santé, etc. Donc toutes ces questions-là doivent nous permettre, et en reconstruisant cette conscience, de mobiliser et d'être ensemble. C'est pour ça qu'on se retrouvera, parce que nous ne nous associons pas à la marche, Et donc, on se retrouvera à 15h pour débattre de tout ça, 15h30 donc sur l'ambassade, pour discuter sur comment on peut rassembler, trouver à la fois la conviction d'expliquer l'enjeu qui se joue et puis les moyens d'action qui permettent d'avoir tout le monde avec nous. Donc, à tout à l'heure, bon courage et je ne sais pas, je ne vais pas le dire en occitan pour faire folklorique, mais la lutte, terra.
La convergence des luttes, converger, c'est pas si simple. Partout sont faits des constats dont semble-t-il la source est sensiblement la même, une logique de prédation, de concentration, de centralisation des politiques, qu'elles concernent l'énergie, la santé ou l'éducation, une logique à laquelle on doit pouvoir opposer l'écosystème des luttes publiques et territoriales, mais tout ceci bien sûr sous surveillance policière.
Alors sur les banderoles, peut-être territoire à lutte. Transition énergétique, j'arrive pas à lire, on va voir tout à l'heure. C'est, tout ça c'est encadré de police municipale, gendarmerie, au moins 2 voitures devant.
Toujours dans la marche pour le soulèvement des territoires, le 22 septembre 2018 à Sainte-Afrique, en Aveyron.
Les tracteurs tirent des remorques plein de gens. On qualifier avec un chapeau un peu spécial à ce dernier bas. Excuse-moi. Pour une radio associative dans le Tarn, est-ce que je peux te demander de décrire le chapeau que tu as sur la tête?
Alors le chapeau, c'est une éolienne.
Fabrication artisanale.
Oui, tout à fait. C'est une éolienne géante. Il y a en rapport le clocher de l'église du village, donc qui est tout petit à côté. Tout ça s'est planté sur un casque de chantier industriel avec marqué « danger de mort ». Et sur l'éolienne, bien visible, il y a un nom en rouge. Voilà. Donc c'est un casque qui symbolise notre lutte contre ces machines qu'on nous impose à travers les campagnes, dans tous nos territoires, et pour bien marquer le fait que les habitants n'en veulent pas.
Et nous avons fait 200 km depuis Perpignan pour vous rejoindre dans le combat contre les éoliennes et à Massada.
Du coup, vous êtes impacté là-bas sur le...
Oui, on a un problème de 44 éoliennes en projet d'installation dans les Aspres, qu'on appelle la petite Toscane de Pyrénées-Orientales, car c'est un pays de petites collines. Et donc, ils veulent nous imposer cette bulle financière qui n'est que du vent, c'est le cas de le dire, mais qui leur apportera du fric tant que le gouvernement subventionnera ce genre de truc.
Voilà. Donc c'est pas que des raisons esthétiques.
Ah non, non, c'est aussi...
Il y a des raisons anticapitalistes, il y a des raisons esthétiques, il y a des raisons d'inutilité, et il y a des raisons de défaveur par rapport aux autres énergies renouvelables que pourraient être la géothermie, la biomasse et beaucoup d'autres énergies qu'on pourrait produire, y compris d'abord les énergies individuelles, c'est-à-dire produire chez soi, économiser chez soi en isolant nos maisons, nos bâtiments, et produire aussi chez soi en ayant sa propre petite production électrique et en y faisant... Bon, moi je suis pour le retour au gramophone et à la GEGEN. La GEGEN pour le micro-ondes, le gramophone pour la musique.
Alors, petite mise au point. GEGEN est l'abréviation du groupe électrogène avec redoublement pour faire jeu de mots avec GEGEN, forme populaire du prénom Eugène. Notre interlocuteur parle donc bien de la GEGEN, argot militaire français désignant un générateur électrique portatif dont l'utilisation première est d'alimenter les radiotéléphones portatifs de campagne. Même si on le sait, la GEGEN fut aussi utilisée pour torturer des personnes en leur appliquant des électrodes afin de faire circuler un courant électrique entre diverses parties du corps. Cette petite mise au point étant faite sur les termes, nous retournons dans la marche pour le soulèvement des territoires le 22 septembre 2018 à Sainte-Afrique en Aveyron avec des représentants du collectif Le Vent Tourne.
La transition énergétique peut très bien se faire sans éoliennes industrielles. Ce sont des modes de production dont on s'est rendu compte qu'ils ne sont pas efficaces. Et que les habitants ne veulent pas. Alors pour plusieurs raisons, chacun a sa raison et chacun a sa bonne raison, mais c'est inutile d'imposer aux habitants ce type de production électrique, alors que d'autres choses existent qui peuvent être aussi, voire mieux, au niveau efficacité. Donc nous, on se bat contre ça dans les Pyrénées-Orientales. On fait partie d'un groupement de collectifs en Occitanie qui s'appelle Toutes nos énergies occitaniques, qui regroupe 160 associations qui luttent pour la même chose, pour une transition énergétique sur d'autres modes. D'ailleurs, ce collectif a fait un plan en réponse au plan repos de la région Occitanie, a fait un plan qui s'appelle Repostar, qui est très au point et qui mérite le détour. Il faut vraiment regarder ce qu'il y a dedans. Et c'est un plan qui est intéressant, qui parle aussi de décroissance au niveau nucléaire. Donc on ne peut pas dire « oui, donc alors vous êtes pro-nucléaire ». Non, c'est complètement faux. On ne peut pas opposer le nucléaire et l'éolien. Ça n'a aucun fondement technique, ça ne fait pas du tout appel aux mêmes choses. On peut être très bien contre le nucléaire et contre l'éolien industriel, ce n'est pas antinomique. Voilà. Et
pour l'instant, on le rappelle, l'éolien se rajoute au nucléaire plutôt que remplacer.
Voilà, c'est-à-dire qu'on empile les modes de production agressifs et qui sont rejetés par les populations. Il faut dire que chez nous, les consultations qui ont eu lieu de la population disent que 85% des habitants sont contre ce déploiement anarchique, ce déploiement agressif d'éoliennes industrielles qui surgit de nulle part, avec des projets qui sont cachés, des projets qu'on nous a cachés. On était encore hier à un conseil municipal où il était question de décider encore de nouveaux projets en catimini, parce que les habitants n'étaient pas consultés, comme d'habitude. Donc c'est une situation qui est dans toute l'Occitanie et dans toute la France.
Dans les Pyrénées-Orientales, il y a 6 promoteurs d'éolien qui sont EDF, l'Énergie Nouvelle, la Société Éléments et d'autres, Vendôc et bien d'autres. Oui. Donc ils sont 6 qui démarchent en ce moment, les maires et les mairies, et les propriétaires terriens, parce qu'ils ne veulent jamais acheter. Alors ils les démarchent pour leur proposer évidemment les retombées économiques sur la ville, sur le budget communal d'une part, venant de la revente de l'électricité à EDF, mais en plus de ça, ils démarchent directement les propriétaires terriens pour leur proposer des baux emphytéotiques à 20 ans, c'est-à-dire qu'ils louent des terres, alors que chez nous, les terres ne valent rien et qu'ils pourraient très bien les acheter. Pourquoi ? Parce que dans 20 ans, qui démontera les éoliennes quand elles seront périmées, obsolètes, et qu'il y aura d'autres modes de production ou qu'on aura changé nos modes de consommation pour les réduire ?
Ça sera moins intéressant
et ce seront les agriculteurs qui auront loué leurs terres ou les mairies qui auront accepté des éoliennes sur le territoire, qui devront payer la note du démontage, qui aujourd'hui est programmée en provision préalable à environ 50 000 euros, alors que l'on sait, donc provision obligatoire, alors que l'on sait qu'un démontage, c'est aux alentours de 300 à 400 000 euros. Minimum.
Donc il y a une incohérence au niveau financier pour les communes et pour les propriétaires qui louent leurs terres, et un risque de banqueroute et encore
donc
un risque de...
Pourquoi louent-ils les terres ? Pourquoi ne les achètent-ils pas ? S'ils les achetaient, ils seraient propriétaires et ils seraient tenus au démontage obligatoire par leurs propres fonds. Tandis que là, ils vont faire les montées par les fonds des autres, qui n'auront pas les moyens de payer. Donc on les aura comme on a 14 000 éoliennes aux États-Unis qui sont dans des cimetières d'éoliennes périmées, inutilisables.
C'est une imposture écologique et une imposture économique.
Voilà. On parle de la pollution des sols.
Voilà, là, moi je suis la présidente de l'association collectif Le Vent Tourne. Tout ce que mes amis vous ont dit, je ne vais pas le redire. Mais j'ajouterai que est-ce que c'est écologique d'enfouir à tout jamais, pour toutes les générations à venir, 1500 tonnes de béton ferraillé dans un sol pour placer une éolienne de 120-150 mètres. Et quand la deuxième génération d'éoliennes arrivera avec 200 mètres de haut, ce socle ne pourra pas la recueillir. On en mettra le même à côté. Donc voilà, plus toute l'huile qu'il y a dans ces éoliennes, plus toutes ces terres rares que l'on va chercher à l'autre bout du monde en faisant travailler des gens dans des conditions plus que lamentables. Voilà, où est l'écologie dans tout ça ? Et quand on sait que les Chinois sont derrière tout ça, que vont faire les Chinois de voilà, face aux problèmes français ? Je pense que nous allons au-devant de gros soucis.
Sous les éoliennes passent nos ombres, ne nous quittons pas. Une seconde, le vent est si fort, il voudrait bien t'avoir pour lui seul, t'emmener loin. Peut-être son souffle est-il plus doux que mes mots d'amour, mes yeux de fou. Peut-être aimerais-tu tourbillonner sous son aile sans moi, pour t'agripper, tu vois, je suis jaloux. Jusqu'au vent qui t'effleure, jusqu'au vent qui t'effleure. Regarde les éoliennes, et comme le vent les entraîne, à elles-mêmes faire le vent, insistant que tu sens. Jouer encore dans tes cheveux et refaire plisser tes yeux et goûter un instant au bonheur en passant. Sous les éoliennes passent nos ombres, ne nous quittons pas une seconde. Le vent est si fort, il voudrait bien d'avoir pour lui seul, t'emmener loin.
Merci à Dominica pour cette vision bien romantique des éoliennes. Nous retournons dans la marche pour le soulèvement des territoires le 22 septembre 2018 à Sainte-Afrique, en Aveyron.
Les nappes phréatiques, hein, y a des gros problèmes sur plusieurs territoires de nappes phréatiques ou d'eau par capillarité qui est stoppée par ces socles en béton, par toutes ces tranchées qu'il faut faire, parfois sur plusieurs kilomètres pour raccorder les machines, parce que les machines, c'est pas du Wi-Fi, hein, donc il faut bien les raccorder avec des gros tuyaux en cuivre qui traversent les campagnes, qui dévient des sources, etc.
On sait que déjà pour l'ouverture d'un chantier éolien, ça, en général, il faut des grosses tranchées dans les forêts.
Oui, tout à fait. Il y a des déboisements massifs pour faire passer les machines. Tous les chemins sont revus et corrigés. On l'a vu à Bourriège, ils n'hésitent pas à exproprier des propriétaires qui ne sont pas d'accord pour agrandir des chemins, pour passer les machines au bénéfice des industriels. Même si les propriétaires ne sont pas d'accord, ils font ce qu'ils veulent. Ils passent sur les terres, voilà, et c'est nous qu'on est là, et puis ils font ce qu'ils veulent. Ils mettent du granulat partout, des terres pleines. C'est des défrichements de forêt. Voilà, donc.
Pour une énergie d'une rentabilité pratiquement inexistante. Et alors qu'il y a d'autres sources d'énergie renouvelable, comme la géothermie, la biomasse, l'hydraulique, ça c'est parfaitement écologique, voilà, qui sont quand même là.
Voilà, donc j'encourage tout le monde à aller voir ce plan Reposta qui nous propose autre chose, qu'on a concocté avec 160 associations en Occitanie, dont on a parlé déjà à la région à quelques reprises, la région qui a du mal à nous recevoir, il faut le dire. Madame Delga, Madame Langevin, c'est
entre départements,
les correspondants. Donc nous, dans les Pyrénées-Orientales, on est dans une situation où, par exemple, dans la communauté de communes dont on parle, la majorité des communes sont contre. Seules les quelques communes qui portent des projets qui sont vraiment minoritaires, de l'ordre de 4 ou 5, sont pour. Tout le monde est contre. Le conseil, leurs habitants sont contre aussi de ces petites communes qui portent des projets. C'est uniquement le maire et le conseil municipal qui a voté, quelque chose qu'apparemment ils ne maîtrisent plus. Maintenant, le conseil départemental s'est prononcé en faveur d'un moratoire contre cette prolifération anarchique. Idem pour le député de notre circonscription qui s'est prononcé aussi pour un moratoire. Bon, donc on espère qu'avec toutes ces oppositions, les projets vont être ralentis. On n'a pas beaucoup d'espoir parce que, comme le disait le monsieur tout à l'heure, ces sociétés privées, c'est du fric. Quand on parle d'éoliennes, en fait, on ne parle plus d'écologie. On le voit bien quand on parle avec des élus. C'est une bulle financière. C'est pour l'économie. C'est fric. C'est le bruit que fait une éolienne, en fait. C'est pas du tout. Quand elle tourne, oui, effectivement, parce qu'il faut savoir qu'elle tourne entre 20% du temps de manière intermittente, donc elle ne produit pas une énergie constante, et il faut un appoint derrière, des énergies fossiles qui sont dites par les techniciens pilotables pour assurer une constance de production, pour qu'on puisse utiliser nos ordinateurs, etc., de manière correcte, parce que avec les rafales de vent, c'est pas comme ça qu'on va allumer les ampoules et faire marcher les ordinateurs de manière constante. Donc c'est juste pour du fric. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Occitanie, on est vraiment excédentaire en production électrique. Donc tout ça, c'est pour l'exportation, en fait, finalement. C'est ce que disait le monsieur tout à l'heure, ce sont des gros réseaux mondiaux de 400 000 volts qui traversent nos campagnes pour vendre de l'électricité ailleurs, en Allemagne quand ils en ont besoin, en Italie ou en Espagne. C'est une énorme place de marché électrique que nous font subir ces industriels et ces financiers, parce que derrière, c'est des fonds d'investissement qui sont bien souvent même étrangers, comme disait notre présidente, qui viennent ici nous coloniser avec ces machines, parce que nous sommes dans des communes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens. Ils profitent de ça pour s'immiscer, et voilà, au mépris des habitants et de leur volonté. Voilà.
Merci. Il y a plusieurs, on rappelle juste les composantes de la lutte, une association.
Alors nous sommes une association des Pyrénées-Orientales, plus particulièrement à défendre le secteur des Aspres et du Val-Espire, et nous nous appelons Collectif Le Vent Tourne. Notre association, moi je suis la présidente de l'association, là j'ai des membres de mon conseil d'administration et des adhérents, et cette association a été créée en 2008 pour lutter contre des premiers projets. Ils ont été stoppés par arrêté préfectoral en 2009, et l'association a repris son combat en 2017 lorsque que ces mêmes projets ont revu le jour dans le dos des propriétaires. Donc il y a une forte mobilisation opposée à ces projets et nos arguments, nous les faisons entendre et la population, comme on vient de vous le dire, à 80%, 85% est avec nous. Parce qu'on les informe et qu'ils n'ont pas la propagande des promoteurs, la propagande de leur maire et la propagande de la télévision.
Vous faites partie du collectif Toutes nos énergies, c'est ça ?
Voilà.
Non, tout à fait, oui.
Oui, et on fait partie. Notre association
est
rattachée.
Qui regroupe 160 associations du Sud-Ouest.
De l'Occitanie.
Les gens de l'Aveyron, l'Occitanie, etc.
Toutes nos énergies, Occitanie.
Ça s'appelle Toutes nos énergies.
Toutes nos énergies, donc Occitanie, qui regroupe 160 associations comme la nôtre, qui se battent contre l'éolien industriel, les transformateurs géants.
En colère, etc. Ouais. Voilà.
Pour le Tarn, nous, c'est Veralbine.
Voilà, toutes ces associations qui sont ici présentes sont, en général font partie de ce collectif, qui se réunit également pour trouver des solutions, pour essayer d'aller voir la région avec ces solutions. Par exemple, à Mazamet, on a fait une grande réunion avec des ateliers pratiques. Voilà, il y avait 400 personnes, mais c'est des réunions de travail sur des modes alternatifs d'électricité, de production énergétique, thermique, électrique, d'isolation. On a fait des ateliers de travail. Ça, c'était dans le cadre de la CNPE.
La CNPP.
C'est-à-dire de la PPE, la programmation de politique énergétique 2018-2023. Donc on a pour toute la France. Et donc, par région, il y avait des réunions qui étaient organisées par la CNDP, donc la Commission nationale du débat public.
Donc là, il y avait des élus.
Il y avait aussi nos associations. Il y avait quelques pro-éoliens, dont deux sont intervenus. Et c'était intéressant, mais on a tenté à l'intérieur de TNE, de faire passer le plan Reposta, c'est-à-dire la contrepartie, l'antithèse de repos, le plan régional de Mme Delga, qui est donc région énergie positive, et nous appelons région énergie positive territorialement acceptable. C'est-à-dire qu'il faut qu'à certains endroits, la population soit consultée au préalable, pas après les achats par les éoliens, mais d'abord avant les décisions prises, dans le plan repos, on ne parle pas de tous les efforts individuels, c'est-à-dire chez soi, son gramophone, sa GGN, sa petite éolienne verticale, son chauffe-eau solaire, son chauffe-eau thermique à côté, etc. Donc de toute son isolation et ainsi de suite, tous les efforts individuels. Rien n'est compté par le plan Delga dans le système repos, alors que dans Reposta, justement, nous tenons compte et nous faisons les calculs de façon à ce que la région soit bien en énergie positive, d'accord, mais avec les habitants, et pas contre les habitants, et pas que pour le bénéfice des financiers.
Voilà.
Okay, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci à vous.
En Occitanie, les opposants à l'éolien proposent une transition énergétique alternative, le plan Reposta. Reposta, c'est le petit nom donné par les associations anti-éoliennes d'Occitanie au tout premier scénario de transition énergétique sans éolien terrestre. Reposta pour région à énergie positive territorialement adaptée, mais aussi Riposte en Occitan, devant la volonté affichée par la région Occitanie d'accroître ses capacités en énergie renouvelable, notamment éolienne, d'ici 2050, en suivant la trajectoire dite repos. Le contre-projet porté par le collectif Toutes nos énergies Occitanie, qui agrège un grand nombre d'associations locales anti-éoliennes, est en effet bâti sur la même architecture que celui de la collectivité régionale, même objectif global avec une baisse de 75,7 TWh annuel de la consommation d'énergie, soit 40% de moins qu'aujourd'hui, et hausse substantielle de la production d'électricité. C'est dans le mix, la répartition de ces énergies, que les choix de Reposta sont bien différents de la trajectoire repos. Pour en savoir plus, on peut retrouver un article comme toujours très fouillé de Grégoire Souchet sur le site reporter.net. Et on retourne dans la marche pour le soulèvement des territoires le 22 septembre 2018 à Saint-Afrique, en Aveyron. Et en termes de convergence des luttes, on parle éducation.
Le cortège s'arrêtait devant une école, c'est bien ça ?
C'est ça.
Et tu as pris la parole au nom de Sud Solidaire, c'est ça ?
Oui, Sud Éducation.
Éducation, pardon.
Et qui fait partie de l'Union syndicale Solidaire. Donc moi, je suis enseignant à Saint-Afrique et je travaille au lycée Jean Jaurès. Et donc là, il y a beaucoup de collègues qui se sont mobilisés pendant plusieurs mois avec d'autres personnels, avec les parents d'élèves, la population de Saint-Afrique Solidaire et les élus. pour tenter de sauver le poste d'enseignant qui devait être supprimé à la rentrée de septembre 2018. Bon, ce poste a pu être maintenu grâce à cette mobilisation, grâce au fait aussi que des familles ont inscrit leurs enfants dans le groupe scolaire Blanchard-Cossa, ce qui a permis de faire remonter le nombre d'élèves et qui a poussé l'inspection académique de l'Aveyron à maintenir ce poste. Donc c'est important qu'un territoire comme celui-là ne soit pas industrialisé, ne soit pas diversifié, que cela ne fasse pas fuir la population, la dissuade pas de s'installer, parce que ben, à partir du moment où on a moins de monde, on a moins de monde dans les écoles et automatiquement, effectivement, les seuils baissent et l'institution supprime des postes, voire ferme des écoles, comme ça s'est passé au Larzac à la rentrée, parce qu'il y a des écoles qui n'ont pas démarré dans le département. Et puis à Saint-Rome-de-Tarn, par exemple, depuis 2 ans, un demi-poste en moins, un demi encore, ça fait un poste en moins. Donc à cette rentrée-là, ça s'est joué à une poignée d'élèves près, 7 ou 8. L'école s'est retrouvée avec un poste en moins, ce qui pour un village est encore plus problématique que pour une petite ville comme Saint-Afrique.
Du coup, comment ça se débat au sein de Sud Éducation, la convergence des luttes? Là, on est sur une manif autour de l'Ambassade et d'autres collectifs, qui a choisi aujourd'hui une marche de soulèvement des territoires pour montrer qu'il y a justement des causes communes. Mm-hmm. Pas forcément les mêmes ennemis identifiés de la même façon, mais il y a quand même la même logique. Est-ce que c'est minoritaire ta position, par exemple, toi, ou est-ce que c'est partagé et comment c'est débattu toute l'année? Comment ça converge? Est-ce qu'il y a des gens qui ne veulent pas se mélanger à d'autres buts, ou est-ce que ça se fait?
Alors, ce qui se passe, c'est que le slogan fondateur de Sud Éducation, c'est changer l'école, changer la société. Donc, Sud Éducation et Solidaire se trouvent du fait assez à l'aise dans ce type de mobilisation. Depuis des années, mon syndicat relaye toutes sur ses listes et dans l'information faite aux adhérents toutes les initiatives de la Massada. Sud Éducation et Solidaire ont appelé à participer, au niveau de l'Aveyron, à l'Assemblée des luttes qui va se tenir tout à l'heure, donc à Saint-Victor, à la Massada. Sur l'appel à la marche, on est un certain nombre d'adhérents. Le syndicat n'y a pas appelé formellement dans la mesure où il n'a pas été associé à la préparation de cette initiative-là. Bon, d'ailleurs, la Massada reconnaît que effectivement, ça aurait été mieux en amont d'associer beaucoup plus de monde. Je pense que l'organisation de la marche et de la fête du vent cette année, suite aux nombreux problèmes qu'on a pu rencontrer, hein, notamment liés aussi à la difficulté de mener cette lutte, fait que c'était très difficile de tenir des réunions de préparation collective et unitaire pendant l'été. Et donc l'appel a été lancé par la Massada et dans un deuxième temps, la Massada a dit appropriez-vous ces initiatives, vous pouvez vous y associer. On sait que c'est très difficile, c'est un petit peu comme lorsque la CGT décide seule d'une journée d'action et qu'ensuite il faut suivre. C'est quand même plus difficile pour les autres organisations syndicales. Donc il n'y a pas de procès d'intention, en tout cas de Solidaire, fait à la Massada. C'est juste qu'il y a eu un petit problème à l'allumage, si je puis dire.
Le calendrier des luttes commence à être chargé, quoi.
Aussi. Et moi je pense qu'on va se retrouver. Le fait même que Solidaire appelle à la participation, en tout cas ses militants adhérents à l'Assemblée des luttes, c'est bien pour discuter de l'avenir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on va pouvoir faire ensemble. On a des problématiques communes, en tant que syndicaliste, par exemple, sur la défense des services publics. La Massada ayant dit, nous, c'est la même lutte, la lutte du transfo de Saint-Victor contre les éoliennes et pour la défense des hôpitaux de proximité ou des écoles. Il n'y a aucun problème avec ça. Tout le monde est d'accord. Donc il faut pouvoir dépasser les petits problèmes et avancer maintenant.
Et alors sur la... peut-être parler de pédagogie, puisque tu parles de changer l'école, changer la société. Ça passe aussi par la pédagogie. Il y a beaucoup de plus en plus de gens, justement, parfois des néo-ruraux qui arrivent dans les campagnes et qui, au lieu de mettre leurs enfants dans des écoles publiques, créent des écoles privées, associatives, alternatives, freinées et compagnie. Est-ce que s'il y a un dialogue avec ces gens-là? Est-ce qu'ils sont vraiment dégoûtés du service public? Comment tu l'analyses, cette alternative qui ne veut plus entendre parler de l'école publique?
Oui, alors ça existe. Non seulement il y a des parents, effectivement, qui souhaitent créer des écoles alternatives différentes, mais pas que des parents, également des enseignants. Et il y a aussi des parents qui, faute de trouver des écoles comme cela, déscolarisent leurs enfants et prennent la responsabilité, en tout cas, de faire l'école à la maison. C'est quelque chose qui est encadré par l'éducation nationale, qui est tout à fait possible pour des parents qui souhaitent s'impliquer de cette façon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe. Il faut savoir aussi qu'il y a aussi bien dans le secondaire que dans le primaire, et c'est y compris le cas en Sud d'Aveyron, des enseignants qui ont fait le choix de pédagogie anti-autoritaire, de pédagogie freinée. Je parlais tout à l'heure de l'école de Saint-Rome-de-Tarn. Ben là, on va trouver effectivement des enseignants à cette école qui sont à fond dans la pédagogie freinée. C'est le cas aussi dans des écoles à Sainte-Afrique et aussi à Millau. Donc, c'est une pédagogie coopérative, c'est-à-dire une pédagogie qui va faire de l'enfant, non pas un sujet, mais un acteur de l'éducation. Et on va essayer de développer à la fois son autonomie, mais sa capacité aussi à réfléchir aussi bien individuellement que collectivement à travers des activités qui sont stimulantes, réaliser par exemple un journal en classe, c'est une chose, et puis renoncer peut-être à un système d'évaluation qui est tellement stressant qu'il paralyse les élèves. Ce sont des exemples parmi tant d'autres.
Et est-ce que ça, en créant des microstructures associatives, alors déjà les prix ne sont pas les mêmes, là on peut pas, tous ne peuvent pas y prétendre, du coup est-ce qu'on ne se coupe pas d'une mixité sociale que l'école publique permet encore, et où est-ce qu'elle en est l'école publique par rapport à cette pédagogie, est-ce qu'elle arrive à les intégrer justement?
C'est effectivement le problème. Donc pour les écoles qui s'inscrivent dans le secteur hors contrat avec l'éducation nationale, sont des écoles qui ont le statut d'école privée hors contrat. Il existe 50 000 élèves qui sont scolarisés en France. Alors, pas forcément dans des écoles alternatives. Certaines sont alternatives et développent la pédagogie Steiner, par exemple. D'autres...
Des écoles confessionnelles aussi
D'autres sont des écoles confessionnelles, voire même des écoles faisant de la religion et même d'une philosophie particulièrement sectaire, l'alpha et l'oméga de la pédagogie. Donc on ne peut pas mettre toutes ces écoles, je dirais, dans le même sac. Il y a des réalités effectivement différentes. Et à partir du moment où on est dans une école hors contrat, eh bien les frais de scolarité, hein, comme vous le disiez, sont quelque chose de beaucoup plus conséquent. Il y a aussi des écoles privées avec contrat, mais là, ce n'est pas forcément dans ce secteur-là qu'on retrouve le plus d'expériences alternatives. Et dans le secteur public, il y a des écoles entières qui sont passées à la pédagogie freinée. Il y a des enseignants qui travaillent en réseau, qui se rencontrent à toutes les échelles locales, départementales, régionales et nationales, pour confronter leurs pratiques et leur pédagogie et construire des savoirs avec les élèves, les élèves sont acteurs et non pas sont des sujets formatés subissant finalement la transmission du savoir.
Trop lourd pour leur pauvre guibole, le bol le plus mort que vivant. Mes enfants s'en vont à l'école, le col du gouvernement. Par décision des ministères, terre de l'enseignement. Ils prennent la couleur austère, terre des enterrements. Mes petits morts entrent de rive, rive d'hôpitaux blafards. Prennent dans le poids des livres, livre le cours du cafard. L'instituteur ignare et terne à mes petits morts. Enseignera ce qui concerne, cerne le respect de l'or. Ils vont multiplier les poires, poires par le prix du lard. Combien de sang dans la baignoire, noire pour faire un dollar. Mes petits morts vont à l'école, colle sans étonnement. Cline devant l'auréole, hall du gouvernement. Plus tard la peur les fera taire, taire ou mordre selon qu'on rectifiera leur salaire, l'air à leur gré ou non. Ils vont recevoir pour algèbre, gèbre le mépris d'abord. Pour devise écraser le faible caresser le fort. Mes petits morts vont à l'école, colle triste infiniment. Prendre l'amour du pétrole, le troll du gouvernement. Dans
leur jeu de mort se déchaîne, de chaîne en frais d'exutoire. La gaieté des bœufs qu'on entraîne traîne pour les abattoirs. Je frémis quand je considère d'air qu'un avortement aurait privé d'un militaire terre le gouvernement. Sur leurs jambes devenues molles, molles, incurablement. Les petits morts vont à l'école, colle du gouvernement.
Merci à Maxime Le Forestier sur un texte et une musique de Romain Bouteille. Nous retournons dans la marche pour le soulèvement des territoires le 22 septembre 2018 à Sainte-Afrique en Aveyron.
Et alors, dernière question sur l'informatique. On revient un peu à la thématique de l'informatisation. On sait que dans l'informatique, dans tout ce qui est tablette, écran, donc de plus en plus d'écoles se dotent, sous l'impulsion d'ailleurs de l'État au nom d'une certaine transition. Comme quoi il n'y aurait plus de papier, il n'y aurait plus de pollution, alors que c'est plus compliqué que ça. Comment c'est vécu cette arrivée massive du numérique? Est-ce que c'est, en plus de la question de la pollution cachée un peu, et peut-être de l'accès, est-ce que ça te semble, est-ce que tu as un regard dessus, toi ou le syndicat?
Sur l'éducation, on est assez critique sur le développement de cette école numérique, dont la logique la plus extrême est une école sans enseignants et une école avec de moins en moins de personnel. Bon, je vais être un petit peu provocateur. Si on regarde l'école avant même le développement du numérique, nous avons une des écoles les plus élitistes des pays d'Europe, plus largement des pays de l'OCDE. On pourra résumer ça de la façon suivante, c'est-à-dire que l'école française, elle est extrêmement bien faite pour ceux et celles qui n'en ont pas besoin. C'est-à-dire ceux et celles qui sont bien encadrés en fait à la maison. Il y a beaucoup de livres, les parents sont extrêmement disponibles, ils n'ont pas des boulots la nuit ou ils courent pas après deux ou trois boulots. Ils peuvent s'occuper effectivement de leurs enfants, voire même ils s'en occupent à temps plein. Et à partir de ce moment-là, bon, ben oui. Mais ça contribue effectivement à une certaine reproduction sociale. En revanche, ceux et celles qui ont le plus besoin de l'école, que ce soit ici en zone rurale, que ce soit dans les banlieues, ou que ce soit même dans les métropoles, mais dont les parents sont en situation de grande précarité ou sont des salariés pauvres, cette école, elle n'est pas très très bien faite pour eux. Elle peut être même extrêmement violente. Le collège est particulièrement violent. Le collège contribue au formatage des élèves, à leur dressage. Même des principaux de collège, des proviseurs de cités scolaires le reconnaissent parfois. Alors ils ne vont pas le dire publiquement, mais en privé avec les enseignants, ils s'accordent pour dire qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il faut changer effectivement les choses. Donc voilà. Et par-dessus tout ça, on nous présente l'école numérique effectivement comme la solution. On nous dit, vous voyez, les jeunes, ils sont quand même de plus en plus là-dessus. Et donc on va accompagner aussi tout cela en développant le numérique. Comme si c'est les jeunes qui choisissaient tout cela. Il y a un marché effectivement qui existe, ils sont assez captifs de ce marché. Et là où on voit que finalement c'est bien un marché, un nouveau système économique qu'il s'agit de se développer, c'est lorsqu'on se penche actuellement, les enseignants sont en train de... Enfin, jusqu'à mercredi, les enseignants de l'Académie d'Occitanie devaient formuler leur choix de formation. Et on s'aperçoit que sur le programme académique de formation de l'Occitanie, il y a un nombre extrêmement important, difficile à chiffrer, mais pas moins de 20 ou 25% des formations sont en grande partie ou totalement axées sur le numérique. C'est bien plus qu'il y a quelques années. Si on compare la situation des programmes de formation il y a 5 ans ou 6 ans et maintenant, on voit qu'il y a eu un changement radical. Est-ce que tout ça va amener l'école finalement à être beaucoup plus accessible pour les élèves? Qu'est-ce qu'on va y faire? Quelle école effectivement on veut construire pour quelle société? Bien évidemment, là on voit bien que ce qui se profile, c'est un peu ce qui est dénoncé dans cette manifestation, c'est que le marché est assuré pour les industriels qui sont derrière tout cela, mais c'est pas pour autant que les mômes vont mieux bosser. Et de ce point de vue-là, je pense que les pédagogies, qu'elles soient freinées ou autres, sont pertinentes. Elles ont effectivement de l'avenir et à nous de faire en sorte de mieux les faire connaître, de les faire partager et nous battre vraiment pour que cette société change.
Et alors comment ça, ça, Est-ce qu'il y a des rencontres, parce que quand on entend syndicat, c'est souvent, on entend manifestation dont l'interlocuteur visé est l'État, ou les académies. Comment il y a des ponts faits, ou est-ce qu'il y a des choses à faire encore avec les parents d'élèves? Alors il y a des associations de parents d'élèves, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas dans ces associations, comme on disait justement, qui ne font pas trop le suivi scolaire de leurs enfants. Est-ce qu'il y a des ponts jetés vers ces populations-là?
Alors, je pense que la question, il faut la voir dans plusieurs sens. Du côté des associations de parents d'élèves, il y a une FCPE, Fédération Conseil des Parents d'élèves, qui est assez dynamique sur Sainte-Afrique, qui essaye effectivement d'aller davantage vers les parents. Cela dit, il y a vraiment une minorité de parents qui se retrouvent dans les associations de parents d'élèves. Et pour les voir, ça signifie qu'il faut, à un moment donné, organiser des initiatives différentes, pas simplement des réunions mensuelles, mais peut-être aussi, et certaines le font, notamment ici, des cafés des parents, des repas partagés, des repas internationaux. Et ça permet de faire venir des parents qui ne viennent pas à l'école, par exemple, parce qu'ils s'estiment complexés par rapport à la maîtrise de la langue française. Donc ils vont se dire, on ne va pas s'exprimer comme il faut, donc on ne sera pas entendu. Il faut, si on veut effectivement que les parents soient davantage impliqués, il faut peut-être aller les chercher là où ils sont, et non pas là où sont ceux et celles qui sont déjà organisés. Je pense que les associations en ont conscience. Après, on leur demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aux organisations, et c'est quelque chose qui se mord la queue. C'est-à-dire, moins on est nombreux, et plus c'est difficile à réaliser. Quand des kins sont organisés par les établissements, il y a énormément de monde. Ça fait partie aussi de ces initiatives qui peuvent permettre de rencontrer les parents. Donc le kin, c'est sympa, mais à un moment donné, il faut aussi pouvoir avoir une vision globale. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile. Dire, je viens à l'association de parents d'élèves, moi j'ai été parent d'élèves, pas simplement pour défendre mon enfant, mais avec une certaine vision justement de l'école et de la société. Et cette vision globale, il n'y a pas suffisamment de gens qui l'ont. C'est tout le problème.
Ok, je te remercie. Tu peux dire peut-être ton nom et ton prénom, si
ouais,
tu veux.
Sans problème. Donc, moi c'est Laurent, mon prénom. Mon nom, il faudrait que tu puisses bien l'écrire, l'orthographier, c'est Sadoc, S-A-D-O-C-K. Donc je suis enseignant à la cité scolaire Jean Jaurès, au lycée. Je suis prof de français et d'histoire géographie. Par ailleurs, je suis syndiqué à Sud Éducation et donc participons à l'Union syndicale solidaire.
Okay. Merci beaucoup.
Attention.
Merci au collectif de l'Ambassade ainsi qu'au collectif Toutes nos énergies. Merci au collectif de défense de l'hôpital et à Sud Éducation. Pour la musique, merci à Trust, merci à Dominica, merci à Maxime Le Forestier, merci au groupe Archive pour le générique de début, ainsi qu'à Damon Albarn pour l'intermède et le générique de fin. Merci encore au site reporter.net et à Grégoire Souchet dont on entendra un témoignage dans l'émission suivante. Retrouvez plus d'infos sur le site toutes nos énergies tout attachées au pluriel.fr et retrouvez le collectif Le Vent Souffle 66 sur leur page Facebook. À lire sur le sujet Être forêt de Jean-Baptiste Vidalou aux éditions La Découverte collection Zone et Les Mirages de l'éolien de Grégoire Souchet aux éditions du Seuil en rapport avec le site reporter.net. À suivre.